Hall, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir et soyez les bienvenus à la causerie. Et voilà, vas-y Jean-Yves.
Eh ben bonsoir à la causerie. Non, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent sur le 102.2 de la bande FM ou sur radiocanu.org. Il est 22h et quelques petites brouettes. Oui. Et c'est donc Fab dans les studios.
Bonsoir, et Jean-Yves qui a la technique qui résolvait un petit problème technique juste avant le début de l'émission.
Ouais, c'est ça, je ne sais pas trop, je crois que c'est moi en fait. Enfin bref.
Je ne serais pas étonné d'ailleurs, mais bon. Tu n'es pas Clara.
Oui, on,
tout, ouais, on, tout le monde ne peut pas être Clara à la
je
technique.
Je confirme.
Donc voilà. Et d'ailleurs, bah, voilà, elle n'est toujours pas là, comme vous l'aurez compris. C'est et c'est ça. Pour ça que sur le podcast, il manquera sûrement un petit bout du début de l'émission.
Alors, on va faire un montage, enfin bref. La causerie, comme d'habitude, on va vous rappeler comment nous joindre. N'hésitez surtout pas. Si vous voulez laisser des commentaires et écouter les émissions, c'est sur le blog que ça se passe. C'est à blogs.radiocanu.org/la causerie.
Oui.
Où vous tapez la causerie Radio Canu sur votre petit moteur de recherche, quel qu'il soit. Et vous devriez tomber sur nous normalement. Hein, je dis normalement, mais ça devrait fonctionner. Vous pouvez aussi nous retrouver. Alors, si vous voulez nous écrire aussi un mail, pardon, n'hésitez pas, que vous soyez artiste, auditeur, auditrice, ou quoi que ce soit.
Association. Vous avez écrit un livre, vous dites que c'est hyper intéressant de venir en parler, par exemple.
Ou vous avez envie d'en parler, tout simplement, sans que ce soit hyper intéressant.
Oui, non, mais.
Enfin, si c'est chiant, c'est
généralement,
tu
généralement, t'écris pas un livre en te disant j'ai fait de la merde. Enfin, sinon, c'est dommage.
Ah, quoi que.
Quoi que ça peut arriver. Ouais,
oui, c'est toujours mieux que j'ai écrit un superbe livre qui laissera des traces dans l'histoire. donc, si vous voulez nous écrire un mail, c'est à lacauserie canu@gmail.com. Vous nous retrouvez aussi sur les différents sites et applications de balado, diffusion, podcast, etc. et d'écoute de musique. Et également sur un réseau socio-commercial, Facebook pour pas le citer, avec une petite page Radio Canu, enfin la causerie Radio Canu, où on y poste simplement les podcasts. Donc encore une fois, si vous voulez nous écrire directement, ou si vous voulez donner votre avis, commenter une émission ou un sujet d'une émission, c'est plutôt sur le blog qu'on vous invite à le faire. Parce qu'il n'y a personne qui se fait d'argent sur votre dos.
Mais
et qui, on ne trafique pas, on n'utilise pas vos données, etc., etc.
Mais par contre, n'hésitez pas à partager l'émission si vous aimez l'émission, parce que ça nous fait plaisir.
Évidemment.
Et ça nous aide aussi.
Aussi.
Parce qu'on a toujours l'ambition de conquérir le monde.
Ah, moi, je n'ai pas lâché. Hein. moi, et le monde ne me suffisant pas, je vais prendre l'univers.
The world is not enough.
Alors, pour arrêter nos conneries, oui, on va vraiment arrêter nos conneries. Et Fab, tu nous proposes un petit tour un petit tour du monde d'infos.
Ouais, de quelques trois pays en fait,
ouais.
dont je voulais parler ce soir, parce qu'on sait qu'au mois d'août, on sent bien que l'information internationale ralentit. Alors, pas ce qui se passe dans le monde, hein, on va être clair, c'est plutôt l'information qu'on donne qui ralentit beaucoup sur l'international. En fait, elles sont moins intéressées, hein, parce que voilà, il suffit de regarder les journaux, alors surtout, ou d'écouter les journaux radio.
Oui, il fait chaud en été.
Ouais, puis il y a le Tour de France,
Il y a les mondiaux,
voilà, et les mondiaux d'athlétisme. La Coupe du Monde de machin, bref.
Des trucs importants, quoi.
Ouais, donc en gros, on voit que l'actu internationale passe vraiment à la trappe. Pourtant, hein, dans ces oubliés d'été, il y a quand même plusieurs sujets dont je vais vous parler qui concernent des pays dont on a déjà parlé dans l'émission. Et en fait, moi, j'avais envie de faire une sorte de petit suivi en cet été 2023, en ce 6 août, voilà. Donc, on va commencer par la Birmanie, voilà. Alors, je vais le dire parce que, en fait, on m'a posé la question pourquoi je disais Birmanie, parce que je refuse de dire Myanmar, surtout depuis que, justement, les gens qui luttent contre la junte militaire rappellent que c'est le nom qu'a donné la junte militaire au pays et que ça n'a jamais été son pays, son nom. Donc, okay. Voilà, et que c'est une volonté d'effacer la Birmanie qu'il y avait avant la junte. Donc je vais donc employer le mot Birmanie pour me mettre du côté des gens qui luttent pour la liberté de la Birmanie. Donc je vais commencer donc à en parler. Je pense que tout le monde se souvient quand même du putsch militaire qui a eu lieu le 1er février 2021, qui était le 9e putsch militaire en Birmanie, et l'installation de l'armée à la tête du pays, tête qu'elle n'avait pas jamais vraiment quittée, hein, faut quand même pas se mentir. Et bien depuis, en fait, c'est quand même la loi martiale qui est instaurée et une loi d'exception permettant de repousser toujours plus loin les élections que la junte a promis de tenir, hein, un jour. Peut-être. Voilà. Et en ce 1er août, donc il y a 5 jours de ça, la junte annonce, comme il y a 6 mois, qu'elle prolonge encore de 6 mois cet état de fait, donc cette loi d'exception et la loi martiale. Voilà. Faut dire que l'armée a déjà perdu le contrôle d'un tiers du pays face aux forces qui lui résistent et souhaitent la remettre à sa place. La guérilla est constante, les tensions quotidiennes et les effectifs de l'armée en diminution. Alors, soit parce que il y a des morts, soit parce qu'il quitte l'armée. Enfin, il déserte. Voilà. Donc, c'est un phénomène qui est quand même assez important et qui est à souligner. Les représailles, hein, donc évidemment, sont juste horribles. Ben, on parle de l'armée birmane, hein, donc si vous connaissez. Donc, pour saper le moral de celles et ceux qui résistent, l'armée birmane brûle des villages entiers, hein, exécute sans sommation et sans procès, torture et viol. Il y a même d'ailleurs des gens qui disent que dans certains villages, on a cloué les portes pour que les gens brûlent dans leur maison. Dans le même temps, les moyens financiers de l'armée diminuent du fait de l'isolement relatif, mais assez fort, de la Birmanie depuis le coup d'État. Du coup, la junte militaire tente de donner des gages pour un retour dans le jeu du commerce international. Ça va être toujours un peu comme ça. Mais... Ah. Bon, alors, c'est un
la
peu...
géopolitique, et la réelle politique.
Ouais, voilà. Donc, c'est un peu risible, hein, parce que, par exemple, ils annoncent avoir diminué la peine de Aung San Suu Kyi du fait d'une grâce présidentielle dans le cadre d'une amnistie de la junte concernant plus de 7000 prisonniers. Voilà, ils sont gentils. Hein. À l'occasion du carême bouddhiste, parce que c'était pour le carême.
Bon, ouais, voilà. La religion vient toujours apaiser les cœurs.
Voilà, alors, bon. Je vais citer, hein, le président du conseil d'administration de l'État a gracié Dawn Aung San Suu Kyi, qui a été condamné par les tribunaux compétents en vertu de la loi sur les droits de l'homme. Voilà. Ne riez pas, c'est la junte qui précise ça. Ils ont peur de rien. Vraiment, hein, vraiment. Donc, un allègement de 6 ans sur une peine qui en fait 33. Hein, quand même.
Bah, ça va,
elle a été condamnée l'année dernière pour une femme qui a 78 ans. Donc, on sent la clémence, hein, vous voyez, c'est le truc, quoi. Et bien sûr, je prends l'exemple de cette personne parce qu'elle est très connue, mais on y, juste pour info, il y a plein de gens qui sont concernés par des peines diminuées de 6 ans et qui ont encore 20, 30, 40 ans à effectuer, donc c'est risible, quoi. Donc oui, en Birmanie, des bataillons résistent à l'armée, souvent composés de gens très jeunes, et c'est ce qui surprend les observateurs internationaux et ceux qui ont, et les journalistes qui ont pu s'infiltrer sur place, parce qu'ils sont souvent autour de la vingtaine, et c'est, voilà, c'est, et ils sont souvent en désillusion totale face à la dictature militaire. Ils sont nés, en fait, hein, sous la dictature militaire, en réalité. Donc, ils rejoignent souvent les rangs du KNDF, qui est la force de défense des peuples Kareni, voilà, ou ce qu'on appelait les Karen à une époque, sur l'état du Kaya. Et ils résistent, en fait, depuis 2021. Il faut savoir qu'à peu près 3 à 4 mois après le coup d'état militaire, en fait, il y a eu une armée qui s'est levée, voilà, non officielle, hein, pour le coup, mais qui s'est levée pour résister, en fait, au putsch militaire et pour récupérer, en fait, libérer la Birmanie, c'est ce qu'ils disent. Au final, en Birmanie, on estime que 450 000 personnes sont aujourd'hui déplacées et vivent dans des camps de fortune. Alors, le 450 000, c'est un chiffre qui est difficilement vérifiable. Toutes les ONG, tous les observateurs, l'ONU disent bah c'est un chiffre un peu estimé, mais c'est sûrement plus, faut être clair. On estime que 3000 personnes sont mortes tuées par l'armée depuis le putsch. Là aussi, c'est un chiffre qui est sans doute minoré. Et que les combats ont déjà fait des dizaines de milliers de morts en plus, parce qu'en fait, les morts dans les combats ne sont pas comptés. Donc c'est pratique. Voilà. On va le dire, on va faire un parallèle, c'est comme pour la guerre en Ukraine, on ne donne pas de chiffres des combattants décédés. Bah, c'est un peu pareil là. Et ça, en fait, finalement, dans l'indifférence générale et sans beaucoup de vagues, et c'est peut-être ça pour ça que j'avais envie d'en parler ce soir, c'est en fait un pays oublié et finalement une jeunesse birmane qui est totalement sacrifiée. Voilà. Donc, je ferme ma parenthèse sur la Birmanie. Et je vous... Oui.
Non, je voulais juste rappeler, enfin, tu l'as peut-être pas donné, mais je sais que j'avais déjà parlé une fois de la Birmanie, bah, quand il y a eu le putsch, je crois que j'avais donné deux, trois petits sites.
Tout à fait, ouais. Sont, oui, je suis désolé, je suis bougé mon micro.
Quand, enfin, en tout cas, vraiment, il y en a un ou deux sites et assos qui vraiment, justement, comptent les personnes qui sont enfermées, emprisonnées et tuées, et qui essaient de faire vraiment un travail de, bah, de mémoire et pas que non plus, quoi.
Bon, on estime, hein, que, enfin, il y a des chiffres qui ont circulé. Je les ai en tête, mais après, comme ils disent, c'est difficilement vérifiable, mais on estime qu'il y a 150 arrestations par jour minimum. C'est assez énorme, hein, quand même, quand on y réfléchit. Je vais vous parler maintenant de l'Iran. Alors, en Iran, la canicule est à plus de 50 degrés à l'ombre en journée, et elle vient d'obliger les mollahs à décréter deux jours fériés, car il est impossible de travailler sous une telle chaleur. Voilà. On aurait pu croire que du coup, il se serait dit que d'être voilée et couverte de noir n'était pas une bonne idée avec une telle chaleur. Mais non, au contraire, c'est le retour de bâton face à la révolution en cours. Les femmes qui ne portent pas correctement le voile ou qui osent chanter en public sont arrêtées et exécutées pour certaines. Oui, oui, exécuté pour insulte à Dieu et autres fadaises, hein, puisqu'on va être très clair. Donc depuis la mort de Mahsa Amini, le 16 septembre 2022, il y a une véritable révolution en cours en Iran pour tenter de déboulonner le pouvoir des mollahs. Alors, je fais une toute petite parenthèse. Oui, toutes les révolutions ne ressemblent pas à la révolution française fantasmée qu'on vous a vendue sur des jolis tableaux. Voilà, ça prend du temps, c'est long, c'est pas immédiat, c'est compliqué, voilà, mais ça s'appelle quand même une révolution. Voilà, je ferme ma parenthèse. Et elle dure, hein, même si on en parle moins, alors qu'en fait le nombre d'actions n'a pas tellement diminué en réalité, voire d'ailleurs plus du tout dans certains médias où l'Iran a totalement disparu des radars. Selon certaines sources, hein, on serait aujourd'hui à plus de 800 personnes exécutées par le régime depuis le début de cette révolution. Et ça encore, comme il le stipule, ces différents tours, c'est des ONG souvent ou des défenseurs des droits en Iran. Ils disent en fait le problème, c'est qu'on peut pas compter, par exemple, les gens qui ont été tués dans des fusillades à l'aveugle dans les manifestations. Parce qu'en fait, on sait que j'en avais parlé. Les tenants du régime arrivent, descendent de la voiture, mitraillent et se barrent. Et donc, il y a des morts. Et ceux-là, on ne les a pas forcément comptés dans les exécutés. Voilà, parce que c'est pas une exécution judiciaire.
En bonne et due forme.
Voilà. Bah oui, c'est vrai.
Ah, mais oui.
Et pourtant, en fait, les Iraniennes et les Iraniens révolutionnaires, eux, ne baissent pas les bras. Elles se filment toujours sans voile, chantant et dansant. Les manifestations reprennent. Il y a des grèves aussi qui ont lieu. Alors, pour tout ça, le régime, il sait très bien l'étouffer, hein. Voilà. Il faut dire qu'il a eu un petit peu le coup de main, comme j'en avais parlé de la Chine, pour tout ce qui était outils pour couper Internet, vidéosurveillance généralisée, tout ça. Donc, voilà. Mais ils ont bien progressé, du coup.
Oui, voilà. C'est ça, ils ont développé là, la surveillance par vidéo.
Ouais. Et le fameux quota reconnaissance faciale.
Oui, c'est ça.
Voilà, ce qui permet en fait de savoir qui est où, qui est quand.
Oui, et je pense que si l'algorithme est bien entraîné, il peut même voir si des femmes portent bien le voile ou pas, non ?
C'est pas encore mis en route, d'après eux, parce qu'ils n'avaient pas encore assez entraîné l'intelligence artificielle. Ouais. Voilà, je vous laisse avec le cynisme de cette appel. Voilà. Mais on voit bien que c'est dans l'idée.
Ouais. Bon.
Mais tout est fait en fait pour que rien ne sorte, hein, comme je disais, et les mollahs viennent de décréter d'ailleurs que et là c'est même assez important, que le refus du voile, ça c'est une loi qui vient de passer, relève d'un trouble psychologique et de la psychiatrie. Voilà. Et alors pourquoi ça a une importance? Parce que ça va permettre des condamnations pour des soins psychologiques obligatoires, et elle commence à pleuvoir dans les tribunaux dits révolutionnaires, parce qu'ils s'appellent comme ça, donc les tribunaux des mollahs. Voilà. Alors oui, c'est d'un côté un aveu de faiblesse, hein, du régime qui ne sait plus quoi inventer, mais de l'autre, c'est aussi des tortures pour des milliers de femmes, il va pas falloir l'oublier. Alors juste pour votre information, il y a une ONG iranienne qui est dans la diaspora. parce que je vais le dire, elle n'est pas sur place, mais qui recueille des témoignages et qui explique en fait que les centres de psychiatrie dont parlent les mollas, c'est en fait des prisons de haute sécurité dans lesquelles en fait les gens sont shootés au médoc et où on essaye de briser la conscience des gens. Voilà, ça n'a rien à voir avec un soin, loin de là.
Ah ouais. Non, c'est un lavage de cerveau en fait, quoi.
Ouais, clairement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant. Hein, je vais le faire le parallèle, mais c'est après avoir discuté avec les autorités chinoises que c'est
ce que j'allais dire. Ça me rappelle ce qui pouvait être fait.
Bah, ouais. les camps pour les Ouïghours.
Les Ouïghours, voilà. Effectivement aussi.
Donc plus que jamais, hein, soutenons les révolutionnaires iraniens et comme ils le disent, femme, vie, liberté. Mais il faut vraiment ne pas détourner notre regard et continuer à en parler.
Et en tout cas, chercher de l'info, parce que ça aussi c'est compliqué en fait. En général,
bien sûr, oui, tout à fait.
C'est trouver l'information, etc. Donc, ouais.
Mais du coup, voilà, on essaye à Causerie modestement de donner de l'info et d'essayer de vous faire passer un peu ce qui se passe, malgré le fait qu'on est au mois d'août et que peut-être que vous êtes en calbute sur la plage. Et maintenant, on va parler du Soudan. Parce qu'on en avait parlé hein, dans l'émission, on avait même reçu des collectifs qui soutenaient la révolution soudanaise. Donc au Soudan, depuis le 15 avril, hein, l'armée et des paramilitaires issus de l'armée s'affrontent pour prendre le pouvoir. Donc ça, vous n'êtes peut-être pas au courant, parce qu'on en parle assez peu globalement. Donc on va être clair, hein, ces deux factions ont en commun une chose, claire entre elles, c'est tuer la révolution en cours au Soudan. Hein, faut être très clair. Il y en a pas une qui défend la révolution.
Non,
hein,
c'est juste pour voilà. Oui, c'est prendre le pouvoir.
Voilà. Et autant le dire, hein, pour l'heure, c'est le cas. La révolution qui était bien partie, ce changement démocratique qui semblait émerger et qui semblait être plutôt puissant, et ben il est retombé comme un soufflet parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que depuis des mois, donc les deux camps s'affrontent en ne tenant jamais compte des civils. Et ça, c'est un truc qu'on n'imagine pas. Mais ils s'affrontent dans les villes, ils bombardent, voilà, sans tenir compte des civils. Jamais. Donc il y a l'ONG Amnesty International qui s'est basée sur 181 témoignages. Vous pouvez aller sur leur site, hein, ils ont fait tout un dossier. Ils parlent même de généralisation des crimes de guerre avec des attaques aveugles et délibérées contre les populations civiles. Voilà. C'est pas anodin hein, quand on écrit ça, c'est plutôt très très grave.
Ah ouais, mais accéder au pouvoir vaut bien la vie de quelques humains.
Bah voilà, exactement. Pensez donc. Donc Donatella Rovera, hein, qui est la responsable en fait de l'enquête menée par Amnesty International, elle précisait auprès de RFI plusieurs choses. Alors, je vais la citer. Hein. Des civils ont été tués de manière délibérée, ainsi que beaucoup d'autres pris au piège dans les combats. Des femmes et des fillettes ont été enlevées, soumises à toutes sortes de violences sexuelles, y compris des fillettes aussi jeunes que 12 ans. Des pillages et des destructions d'infrastructures qui empirent la situation pour la population civile, sachant que les denrées de base, nourriture, médicaments, ainsi que l'aide humanitaire, dans les régions qui font l'objet de combats, ne peuvent presque pas arriver, voire pas du tout. Et donc la population civile se trouve dans l'impossibilité d'obtenir ce dont elle a besoin pour la survie quotidienne. Cela fait que des millions de Soudanais ont dû quitter leur maison ou fuir. Des millions, hein, je le redis. La plupart se sont réfugiés dans d'autres régions du pays et des centaines de milliers ont traversé les frontières et se sont réfugiés dans les pays voisins où ils vivent dans des conditions humanitaires absolument catastrophiques, surtout au Tchad. Plus de 300 000 personnes ont fui la région du Darfour et se trouvent au Tchad dans des conditions humanitaires absolument catastrophiques. Elle le redit. Donc je citais hein, Donatella Rovera dans une interview à RFI, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple de laisser la parole à quelqu'un qui a fait l'enquête. Voilà. Donc on voit que la situation est très 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 problématique et plus que... Et j'aimerais qu'on ait le même élan de solidarité avec les Soudanaises et Soudanais qu'on a pu l'avoir avec les Ukrainiens et Ukrainiennes, sans minimiser le fait qu'il faut avoir cet élan de solidarité pour les Ukrainiens et Ukrainiennes, mais il ne faudrait pas oublier les autres, parce que c'est ça qui est important. Et elle ajoute, hein, donc toujours Donatella Rovera, elle ajoute concernant les mesures qui devraient être prises, parce qu'elle essaye quand même d'expliquer ce qui pourrait être fait quand même pour voilà. Il y a des mesures claires et concrètes que la communauté internationale et régionale pourrait prendre et qui n'ont pas été prises jusqu'à aujourd'hui, notamment au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, d'étendre l'embargo sur les armes qui existent aujourd'hui spécifiquement pour la région du Darfour seulement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, ils peuvent les deux factions peuvent acheter des armes et ne s'en privent pas. Donc voilà. De même, le mandat du Tribunal pénal international, qui a un mandat pour enquêter sur les atrocités du Darfour, eh bien ces mandats devraient être étendus à l'ensemble du pays, ce qui permettrait quand même aux victimes de pouvoir porter plainte auprès de la CPI. L'Union africaine et sa commission des droits de l'homme devraient mettre en place une commission d'enquête indépendante, devraient appuyer les efforts au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour mettre sur pied des enquêtes, car il est essentiel que les responsables de ces violences et de ces violations reçoivent un message clair, que les enquêtes au niveau international se poursuivent et que ceux qui commettent des crimes de guerre et des violations graves auront à répondre de leurs actions. Cela aujourd'hui est malheureusement pas le cas. Voilà. Alors je la cite, je dis pas que ce qu'elle dit suffirait, simplement on voit à quel point on est dans l'impunité, c'est dans une guerre qui se passe sans retour du tout, quasiment sans journaliste sur place, avec les réseaux sociaux qui sont coupés au Soudan aujourd'hui, donc très peu d'images qui peuvent sortir, avec Internet qui a été coupé, avec l'électricité qui est coupée aussi dans la capitale. Quand ils n'arrivaient plus à couper Internet, ils ont coupé l'électricité pendant 3 jours. Donc on imagine ce que ça veut dire dans un pays où il fait très chaud, donc les denrées alimentaires et tout ça, enfin tout ce qui a pu être flingué, les médicaments, enfin tout ce qui va. Donc c'est hallucinant, mais en fait on est dans cette situation où finalement très peu de gens en parlent. Et c'est là un peu la problématique. Donc voilà la situation au Soudan, elle est donc catastrophique pour des millions de Soudanaises et Soudanais, dans le silence finalement le plus absolu qu'il soit, on s'en rend bien compte, comme si cela était finalement normal que ça se passe dans ces régions, et comme si on n'avait pas envie de savoir que ça se passe. Ben, pourtant il faut quand même, voilà. Alors évidemment, hein, on ne peut pas forcément faire grand chose tout seul. Par contre, on peut faire des choses comme aller soutenir les manifestations, demander quand même que nos pays accueillent les femmes soudanaises et les enfants. Voilà, parce que ça, c'est tout bête, hein, mais voilà. Bon, je sais, c'est pas dans l'air du temps. Mmh. C'est pareil qu'on va faire une loi pour empêcher le...
Voilà. C'est ça.
Bref, voilà pour ce petit tour sur 3 pays qui connaissent en ce mois d'août des choses importantes à connaître, et pour moi, de mon point de vue et du point de vue de la causerie, je pense, et à savoir, c'est-à-dire que on essaye de mettre en lumière ce qui est, voilà, des situations qui nous paraissent importantes. Bien entendu, hein, d'autres choses se passent par ailleurs. Et il ne s'agit pas de tomber dans l'excès inverse, de dire que cela compte plus que pour d'autres. C'est pas notre propos. C'est simplement que, ben, en fait, le monde, il est vaste, et c'est bien de s'inquiéter de ce qui se passe dans le monde, en général, et pas uniquement dans ce qui se passe à 2 pas ou à 300 km de chez nous, ou à 8 heures d'avion. Il y a aussi des choses qui se passent ailleurs, et c'est important de le savoir. Mais en cet été, on se rend quand même compte combien les informations sont recentrées sur des sujets, comme on le disait au début, triviaux et sans réel fond, au détriment de ce qui est réellement intéressant, et ce qui fait de nous des humains reliés les uns aux autres. Voilà.
Voilà.
Donc, je suis désolé, hein, c'était pas très joyeux, j'en ai conscience.
Non, mais,
mais à un moment donné, bah, je trouve que même si on est en été, c'est quand même bien de ne pas faire comme si rien ne se passait, et que nous, pendant qu'on est en vacances, en fait, tout va bien ailleurs.
Oui, c'est ça, en fait.
C'est pas aussi
ça
simple.
Que ça sous-entend, quoi.
C'est ouais, et je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là qui est un peu dérangeant, et qui revient chaque année, hein, on le sait. Hein.
Oui.
Chaque année, on râle à la causerie pour
oui,
ça.
C'est ça.
Je dis, voilà. Mais non, mais en plus, parce que je trouve que, voilà, il y a quand même des situations en ce moment qui sont en train de se produire. Il y a des. Là, j'ai en tête aussi ce qui se passe entre le Niger et le Nigeria. On voit bien un petit peu le putsch au Niger et le président du Nigeria qui a très 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 envie d'en découdre avec le Niger, mais parce qu'en fait il y a aussi un vieux fond derrière de récupérer le Niger. Enfin bref,
géopolitique, voilà, c'est partout, tout le temps.
On voit que c'est très compliqué et que ça ne veut pas dire que les putschistes ont raison non plus. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est qu'en fait voilà, on voit, c'est très complexe. Mais c'est des situations dont on peut pas non plus ne pas se tenir informé. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'après, il y a des gens qui vont bouger. Il y a des gens qui vont essayer de migrer, de s'en aller, de demander l'asile. Et en fait, nous, les militants, on va dire anarchistes et de gauche, en fait, on est là aussi pour pouvoir aider à accueillir ces personnes-là. Et on est là pour les aider. Voilà, ça va être notre job. Mais si on n'est pas au courant de ce qui se passe, ça va être un peu compliqué d'arriver à comprendre pourquoi il y a urgence, vous voyez. Et c'est ça, en fait, qui, pour moi, est important. C'est de garder en tête ce qui se passe, parce que oui, à un moment donné, ça peut être aussi à nous de venir mettre un coup de pression à la préfecture, expliquer un petit peu à nos politiques que, bah non, on n'a pas envie d'une Europe, forteresse, voilà, tout ça, quoi. Et puis, voilà, c'est beaucoup de boulot, mais c'est aussi notre rôle, même quand c'est le mois d'août.
Voilà. Effectivement.
Pardon. Hein, mais...
non, c'est pas grave. On passe à la ZIC ?
Oui.
Allons-y.
Ça va réveiller un peu.
C'est ça.
fait du bien, hein. C'était la causerie, enfin c'est toujours la causerie au 102.2 sur RadioCanu.org. Et vous venez d'entendre Beyond the Black avec Call My Name, comme ils le disent au moins 55 fois dans le titre. Mais en tout cas, voilà, donc moi j'aime beaucoup, c'est le nouvel album de Beyond the Black et c'est leur nouveau single. Je cherchais le titre, le nom qu'on donnait à ces trucs qui sortent. Voilà.
Ok.
Voilà. Et donc, Jean-Yves, toi, on va passer à un petit moment de lecture.
Oui, on peut dire ça, en fait. C'est okay. Un fait qui s'est passé le 17 juillet 2023, dont j'ai envie de parler ce soir, que j'ai envie de questionner. Alors, en effet, hein, le 17 juillet 2023 a été pris un arrêté portant sur l'interdiction de vente aux mineurs du livre « Bien trop petit » de Manu Kos, édité par la maison d'édition Thierry Magnier. Alors, Place Beauvau, hein, donc le ministère de Darmanin, justifie ainsi l'arrêt. Je cite « L'ouvrage, bien trop petit, présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique, le ministère étant par conséquent fondé à faire usage des pouvoirs de police administrative spéciale qu'il tire de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de vente aux mineurs. Cette décision » Je continue de citer, hein. Vous l'aurez peut-être compris, j'incarne...
Oui, parce que tu parles rarement comme ça, Jean-Marc.
Oui, c'est vrai. Cette décision... oui, clairement, pardon. C'est pas du tout mon vocabulaire. Cette décision, qui, en application de la loi, peut intervenir dans l'année qui suit l'apparition d'un ouvrage destiné à la jeunesse, trouve son origine dans un signalement adressé au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer par la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse en date du 30 janvier 2023 au sujet de l'ouvrage précité. Alors déjà, on peut se poser la question, c'est quoi cette commission ?
Oui, parce que moi, j'aurais jamais... Enfin... Je ne savais pas qu'elle existait.
Ouais, bah si, en fait. Elle est née dans l'après-guerre. Hein, elle compte 16 voix de membres. 16 voix de membres, non.
16 membres.
Avec voix délibérative. Alors, je vous les cite. Ouais, bon, alors, il y a un ministre, un membre du Conseil d'État, hein, qui est président de la commission. Il y a 4 fonctionnaires représentant les ministères de la Culture, l'Éducation nationale, la Justice et l'Intérieur. 2 représentants des personnels de l'enseignement. 1 pour le public. 1 pour le privé, 2 représentants des éditeurs presse, des éditeurs jeunesse, 2 représentants des éditeurs généralistes, 2 représentants des auteurs et dessinateurs, 1 représentant des organisations de jeunesse, 1 représentant de l'Union nationale des associations familiales et 1 magistrat honoraire ayant siégé dans les tribunaux pour enfants. Et en fait, cette commission, en fait, elle a pour à caractère consultatif, c'est important de le rappeler, est placée en fait auprès du ministère de la Justice, est chargée par la loi de vérifier que les publications, bah comme vous l'aurez sûrement deviné, les publications écrites destinées à la jeunesse ne comportent aucun contenu présentant un danger pour celle-ci. Alors maintenant qu'on a parlé de cet arrêté et de cette commission, on peut enfin, pour avoir tout le cadre de cette affaire, on va parler je vais vous parler du livre et de ce qui l'entoure. Alors bien trop petit, hein, c'est un roman de 400 pages, donc de Manu Kos, sorti en septembre 2022 dans la collection L'Ardeur. Des éditions donc Thierry Magnier. L'auteur, hein, lui Manu Kos, il a une vingtaine d'ouvrages à son actif, je veux dire c'est pas un débutant, avec presque autant pour le public jeune que non, on va dire non spécifique. La maison d'édition, elle est née en 97 et si au début elle publiait majoritairement de la littérature pour jeunesse, pour petite enfance même, elle a depuis agrandi, on va dire le panel du public en fait auquel elle s'adresse. Et en octobre 2019, en fait, il y a cette collection, donc L'Ardeur, qui est lancée pour les plus de 15 ans, avec une volonté affichée, hein, de parler des corps, de la sexualité et de tout ce qui entoure ces choses-là dans cette période-là, c'est-à-dire l'adolescence.
Oui, qui est la période la plus complexe, souvent,
je trouve.
Pour ce qui est de la découverte de la sexualité, des corps, de tout ce qui change, l'arrivée des hormones, tout
c'est
ça.
C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, L'Ardeur a remporté le trophée de l'édition de la création éditoriale, remis en décembre 2019 hein, par le journal Livre Hebdo. Et en fait, depuis cette collection, elle compte en fait 10 ouvrages. Et précision importante, en fait, en tout cas il me semble, la maison d'édition a mis un visuel sur tous les livres de cette collection L'Ardeur, un visuel donc moins de 15. avec interdiction aux moins de 15, vous voyez, ouais, un peu comme dans les jeux vidéo, etc., etc. Donc sur les livres de cette collection, hein, précisant donc bien le public visé, ou en tout cas le public auquel elle s'adresse, quoi. Et auquel elle ne s'adresse pas, de fait. Autre détail, hein, qui est quand même, je trouve, assez parlant, c'est que le livre, en fait, avant cette interdiction de vente aux mineurs, ne s'est vendu qu'à 500 exemplaires. Pour un tirage de, je crois, 2005 ou 3000 exemplaires.
Donc déjà, ça veut dire toutes les institutions qui l'achètent.
Je sais même pas ce que ça recouvre, mais oui.
C'est, oui, parce que déjà, il y a souvent des partenariats, donc ça veut dire que ça a été acheté par des médiathèques,
oui, c'est
comme ça.
Ça.
Donc on n'est pas sur une très grosse vente au public, quoi.
C'est ça. Non, c'est ça. Donc le livre, en gros, hein, bah, en fait, il parle de Grégoire, qui après le confinement et une adolescence qui a fait son chemin, retourne au lycée et qui, au cours de sport, en fait, à la piscine, sera mis humilié à plusieurs reprises par Antoine. Le sujet, la taille de son sexe. Grégoire a l'impression de mourir de dedans. Sa solution immédiate pour évacuer sa frustration, c'est se réfugier en fait dans ses fanfictions. Mais cette fois-ci, son récit va prendre une tournure inattendue, en fait, avec un passage érotique. Et parmi ses lecteurs, en fait, il y a Kika qui l'encourage, le bouscule un peu et le pousse à aller plus loin. Voilà, le cadre est posé autour de qui est qui, les acteurs, etc. dans cette histoire. Alors vous aurez compris, hein, dis-moi.
Non, juste pour qu'on comprenne, les fanfictions, elles sont dans le roman ?
Oui.
C'est pas d'accord.
C'est
voilà.
Ça.
Ok.
C'est ça. Donc vous aurez compris justement que les passages porno dénoncés par le sinistre Darmanin sont des passages en fait des fanfictions. Qu'écrit Grégoire et qui partage en fait sur des sites spécialisés de fanfiction.
D'accord.
Ok.
Il est moderne en fait le livre. Enfin, je veux dire.
Oui,
il s'inscrit dans notre monde actuel.
Dans la jeunesse actuelle les moyens qu'elle utilise. Alors, au passage, hein, comme c'est exprimé dans le livre, ce qu'il écrit, il le fait en s'appuyant sur des histoires que lui-même, que le personnage Grégoire, peut trouver sur des sites pour adultes, qu'il peut consulter en cliquant simplement sur. Oui, j'ai plus de 18 ans.
Oui, ou carrément sur rien. Parce que
ou carrément sur rien.
Il faut te demander.
Oui,
rien.
C'est vrai aussi. Et je me dis, tiens, peut-être que là, en fait, c'est déjà un moyen, finalement, d'interroger notre société où le porno, en fait, est à portée de clic de tout le monde, en fait, quoi. Et d'ailleurs, justement, je suis retombé en faisant ce sujet, je suis retombé sur une étude, en fait, qui a été faite en mai 2023, donc il y a peu de temps, hein. D'après, donc, une étude pour l'ARCOM. Donc, l'ARCOM, on peut le rappeler, c'est l'ancienne. L'ancien CSA. Ouais, ce que certains et certaines appellent la police des médias, on va dire. Donc, 51% des garçons de 12 à 13 ans regardent des sites pornographiques chaque mois. Et quand même, 21% des garçons de 10 à 11 ans. Chez les filles, elles sont, on va dire, non représentatives jusqu'à 11 ans. Elles sont tout de même 31% de 12-13 ans. En revanche, d'après l'étude, en fait, cette proportion diminue jusqu'à la majorité chez les filles, tandis qu'elle augmente chez les garçons. Là aussi, hein, ça interroge aussi tout ça. Bref, ça c'est l'étude. Hein. Mmh. Donc, et pour en revenir au livre interdit aux mineurs, hein, les échanges que Grégoire aura avec ses lecteurs, lectrices, l'amèneront en fait à interroger, à comprendre que la sexualité, en fait, c'est pas une histoire de taille de sexe. Ça, c'est fou, alors qu'en fait, je sais pas vous, en tout cas auditeurs qui sont nés mecs et tout ça, je sais pas votre adolescence, mais on peut se dire quand même que la taille du sexe, c'est un truc qui est pas qu'à l'adolescence, qui peut occuper les esprits de bien de personnes.
Je crois que ça occupe un peu trop les esprits de beaucoup de mecs, et notamment de mecs hétéros.
C'est pas faux. C'est
voilà.
Pas faux.
Et pas que,
mais pas que quand même.
Mais pas que, mais aussi.
donc voilà. Donc en fait. Il y a donc en fait une notion de réflexion, en fait, de discours qui ressort du livre et. Alors, c'est un grand mot, mais il y a un aspect pédagogique, en fait, finalement. Et souvent, en fait, dans des livres jeunesse ou autres, il y a une notion de vouloir transmettre quelque chose, quand même, à celui ou celle qui lit le livre.
Là où encore, là, on dit jeunesse, mais c'est l'adolescence, quoi.
Oui, mais
ouais.
c'est toujours.
C'est classé jeunesse. Oui, non, mais c'est classé jeunesse. Mais pour moi, je trouve que d'ailleurs, on devrait faire au moins deux catégories.
Oui.
Enfin, dire jeunesse et adolescence, parce que c'est pas la même vie, on n'est pas au même moment
pareil.
De sa vie, quoi. Donc,
oui, c'est
voilà.
Ça. Pardon, donc je me perds. Tac, 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 tac. Oui, alors, en fait, il y a une notion, donc, ce que je disais, il y a une notion là de réflexion, de discours qui ressort du livre, cet aspect pédagogique que j'évoquais. Là où, en fait, quand t'es un ado, pas que d'ailleurs, que les ados, consultent un site porno, bah, il n'y a pas de réflexion, je veux dire, il n'y a pas de discours, il n'y a pas d'aspect pédagogique. Ou si, s'il y en a un, en fait, il ne serait pas des plus positifs, en fait, pour la sexualité, ou les rôles et les postures genrées, qui sont majoritairement distillés quand même dans le porno, on va dire, grand public.
Mais c'est tout le problème du porno.
Mais oui, oui, c'est un des problèmes, effectivement. Alors, si le sinistre de l'intérieur hein, reste droit dans ses bottes, comme d'habitude... Ah,
mais c'est Darmanin, on va, pas lui... ouais, il est on va quand même pas lui demander d'être souple.
C'est ça. Les réactions ne se sont pas faites attendre, hein, évidemment, tant de la maison d'édition Thierry Magnier que de l'auteur, évidemment, mais aussi une partie du milieu de l'édition au sens large, c'est-à-dire maison d'édition, auteur, autrice, etc. Et si la majorité apporte son soutien aux concernés, évidemment, malheureusement, le refus d'appliquer l'arrêté et la vente aux mineurs peut coûter très cher. C'est des milliers d'euros et ça peut aller jusqu'à de la tôle aussi. Bah donc tout le monde en fait l'applique, même s'ils soutiennent les auteurs et autrices, mais il y a un moment donné, oui, ça peut coûter cher.
C'est la France au fronton des mairies, il y a marqué liberté, mais c'est juste au fronton des mairies.
Ah, c'est...
Je dis ça, non, parce qu'en fait, moi je suis toujours inquiet, et je pense que tu vas en parler après, mais je suis toujours très inquiet, moi personnellement, quand le politique se met d'un seul coup à nous dire ce qu'on a le droit de lire ou de ne pas lire, de faire ou de ne pas faire, et quand d'un seul coup, en fait, parce que moi j'ai lu, quand tu préparais... On a pu échanger, j'ai lu le passage incriminé.
Un des passages.
Enfin, un des passages incriminés dans l'arrêté. Je suis halluciné que ce passage, qui est une fanfiction d'un ado, je ne vais pas dire enfant, mais d'un ado de 15 ans, qui a effectivement des désirs sexuels, qui écrit très mal, parce qu'en plus c'est volontairement mal écrit, comme beaucoup de fanfictions sont mal écrites par des ados. Oui, c'est tous les délires sexuels d'un ado de 15 ans.
Et qui sont aussi formatés par le monde dans lequel il vit. Quoi.
Mais moi je me demande où étaient ces personnes qui aujourd'hui se permettent d'interdire à 15 ans. Parce que moi je me rappelle qu'à 15 ans, dans les cours d'école, dans les gymnases, dans les vestiaires, on allait loin dans le cru. Parce que ça fait aussi partie de la construction, malheureusement parfois malsaine.
Ah oui, c'est ça, c'est
et pas toujours saine.
Ça,
je suis pas en train de dire que c'était bien, sauf qu'en fait, ça fait partie de la construction adolescente, et notamment, et je le redis, adolescente hétérosexuelle, voilà, parce que c'est aussi des groupes de mecs hétéros. C'est qu'il faut pas se mentir non plus. Il y a très très peu de groupes de mecs gays dans un stage-là ou ouvertement homosexuels. Mmh. C'est peut-être plus maintenant avec la génération qui arrive, et tant mieux, ça leur fera peut-être du bien. Et je suis plutôt positif là-dessus. Mais par contre, oui, il y a une vraie construction machiste autour de la taille de la
phallocrate,
autour de la taille du sexe, autour de qu'est-ce que j'ai fait à la nana quand alors que le mec est plus toujours puceau mais qui fait croire qu'il a voilà et tout et qui raconte des histoires hallucinantes et que quelques années après quand vous y repensez vous dites en fait il avait rien fait c'était pas possible vous voyez voilà mais et donc oui ça fait partie de ces trucs là et je trouve hallucinant qu'on interdise un livre qui montre ce qu'est justement l'écriture la fantasmagorie d'un mec de 15 ans.
Et qui l'interroge.
C'est-à-dire
qu'elle n'est pas là juste pour
être
là, en fait.
C'est pas voyeuriste, c'est dans le cadre d'un livre qui cherche à expliquer que, bah oui, il sort un peu des normes qu'on te met à coups de burin dans la tête, notamment par le porno, et voilà, donc c'est hyper positif livre pour moi. Sauf qu'à un moment donné, on l'interdit sur... la retranscription d'une fanfiction écrite par un ado de 15 ans qui, pour l'avoir lu, est à des années-lumière des horreurs qu'on peut dire à 15 ans dans un vestiaire. Ouais. Mais vraiment.
Oui. Ou même des horreurs qu'on peut voir à partir de 10-11 ans sur des sports.
Et je le dis très honnête et très ouvertement. Quoi. Et moi, ça m'a vraiment halluciné que ces passages-là puissent donner lieu à une interdiction de vente aux mineurs, vraiment.
Ouais. Et d'ailleurs, nombreux aussi, par rapport au porno, etc., qu'on évoquait, hein, nombreux sont les soutiens qui, justement, pointent, en fait, cette hypocrisie autour des sites porno, ou même d'autres livres aussi, hein, certains sites, certains mangas, etc., qui sont accessibles, en fait, aux ados, sans vraiment de problème, et dans lesquels on peut voir des scènes de viol, ou de choses qui sont pas du tout clean, en fait, quoi. Alors que là, l'idée, c'est il y a des choses sexuelles, mais c'est pour les interroger. Et justement, on peut pas se construire sans interroger. Et le rôle du livre, il est là, en fait, quoi. C'est amener le lecteur, la lectrice, à s'interroger sur ce que c'est, en fait, tout ça. Et l'autre hypocrisie aussi que je trouve, c'est sur la sexualité des ados. Enfin, je suis pas le seul à la trouver, mais il y a vraiment, si la liberté sexuelle, elle est acquise à 15 ans, en fait, bah, lire un livre sur un ado qui s'interroge à peur, à honte de lui, de son corps et sur la sexualité serait donc uniquement autorisé aux plus de 18 ans. Enfin, il y a quelque chose qui, il y a vraiment quelque chose d'antinomique, quoi. Enfin, c'est...
Mais on retourne sur l'hypocrisie habituelle, qui est de dire, en fait, faites, mais ne le dites pas, et faites mal parce qu'on n'en parle pas.
Oui, on ne veut pas voir.
C'est un truc de fou, quoi.
On ferme les yeux, quoi.
Pardon, mesdames, messieurs qui nous écoutaient et qui avaient peut-être des enfants de cet âge-là, je vous assure, ils ont une sexualité.
Oui.
Et même, d'ailleurs, ils l'ont un peu avant, mais pour d'autres raisons, mais voilà. Mais à 15 ans, 16 ans, oui, on a une sexualité, et elle est souvent bouillonnante.
Oui, donc, et voilà. Je pense qu'il vaut mieux l'aider, l'accompagner d'une certaine manière. Que de en fait les laisser sans en faire un sujet, et c'est pas grave en fait la sexualité, c'est là aussi quoi. Enfin bref, mais comme dit, hein, enfin tout ça c'est totalement faux cul en fait. Hein, mais ça doit rassurer à quelque part hein, les pères et les mères la morale, parce qu'il y en a un paquet quand même, faut pas non plus se mentir. Parce que je sais pas vous en fait, amis auditeurs, amis auditrices, mais à 15 ans en tout cas, me concernant, j'avais déjà vu du porno déjà. Hein, et c'était pas forcément.
Ouh, c'est mal.
Ouais, non, mais c'est, je suis pas en train de me gagariser sur ça. Hein, c'est juste.
Non, c'est un fait.
C'est un fait, en fait, quoi. Mmh. Mais aussi, en fait, bah, mes sens, tout comme les hormones, en fait, étaient en ébullition, en fait. Et je me dis, avec le recul, bah, je pense qu'il aurait été bien mieux pour moi et mes partenaires d'alors, et je pense même un paquet de gens, en fait, à ce moment-là, je pense qu'il aurait été bien mieux, en fait, bah, de pouvoir se construire. Se découvrir avec des livres faits pour cela, partant de ce qui peut être dans nos têtes à cette période-là, plutôt que du porno et autres productions patriarcales et hétéronormées et performatives, parce que là aussi c'est un autre point qu'on peut interroger quand même.
Bien sûr, tout à fait.
Et nous noyons en fait bien plus souvent sous des idées préconçues, des clichés, des idées, des constructions fausses sur ce que serait la sexualité en fait. Déjà la sexualité, hein, c'est...
Il y a autant de sexualité que d'être humain.
C'est ça, l'oublier. C'est pour ça que j'aime bien des fois dire les sexualités, ouais, parce que finalement, on a chacune les nôtres en fait. Et je rappellerai aussi que la loi en fait prévoit 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an, de la primaire au lycée, ce qui fait donc 21 séances. Et en fait, cette obligation, elle n'est absolument pas respectée.
Hein ? Ah bon ? Non, sans blague.
Et là, encore une fois, il y a une étude, en fait, parue l'année dernière, sur 21 cours prévus. Ben, en fait, la réalité, elle est plus proche des 2,7 cours dans tout le parcours scolaire. Donc, on est à un petit peu plus de 10%, quoi. Mmh. Et c'est juste affligeant, quoi. Et... Là aussi, c'est super parlant. La prévention contre les infections sexuellement transmissibles est le thème le plus abordé en classe, hein, selon 82% des répondants. Arrive ensuite les organes génitaux masculins, 77%, et la contraception, plus de 55% des répondants. Puis le harcèlement et le consentement sexuel, avec 25% et 22%. Les stéréotypes sexistes, les violences sexuelles, l'identité de genre arrivent évidemment, vous l'aurez deviné, tout en bas du tableau.
Bah hein. Oui, à quelques pourcents, quoi.
Oui, c'est ça. Je les ai pas les pourcentages,
non, mais
c'est
en dessous de 20, en tout cas.
C'est ça. Mmh. Et en fait, je trouve aussi que tout ça, en fait, ça résonne, en fait, avec tout le bordel venu de la sphère réactionnaire autour d'autres ouvrages, hein, comme, pour un tout autre public que les ados, le livre « Tous à poil ». Hein, où la nudité devient dans la bouche et surtout dans les cervelets des réacs de la sexualité. Non, la nudité, c'est juste la nudité. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Ça, en fait, ça a du mal à rentrer, quoi. C'est fou, hein. Faudrait faire des petits livres comme ça avec des belles couvertures, comme un peu la Bible ou autre, et donner des petits trucs comme ça, en fait. Hein. Sexualité, nudité ne sont pas les mêmes
choses.
C'est
pas pareil.
C'est peut-être qu'ils y croiraient au bout d'un moment. Enfin, bref. Mais. Ou encore l'ABCD de l'égalité. Hein, peut-être que vous vous en souvenez de tout ce bordel qui avait été remis dans les cartons suite, là encore, à des délires venant de l'extrême droite. Et venant de l'extrême droite, mais quand même toujours finalement validé par l'État, en fait.
Oui, tout à fait.
Parce que si tu interdis, si tu enlèves un ABCD de l'égalité parce que les réacs et les fachos se soulèvent, bah, tu leur donnes juste raison, en fait.
Bah, c'est ça.
Et toujours, hein, ce que je me disais, toujours cet État qui serait là pour nous protéger, hein, quitte à nous brider, quoi. Mais bon on n'est pas à ça près, je veux dire. Hein, on le sait bien. Bref, encore une fois, les ados et la création littéraire sont pris en otage, finalement, par un père la morale. Et encore une fois, il n'y a pas que des pères la morale d'Armanin, il y en a plein d'autres, qui préfèrent finalement donner des gages aux réactionnaires de France plutôt que à l'émancipation, la construction des individus, enfin un truc waouh, complètement fou quoi. Alors que pour la sexualité, les émotions, les corps et tant d'autres sujets, selon moi, en fait, il n'y a que la culture, la connaissance, le savoir, le questionnement, l'échange qui nous amèneront vers un monde. Attention, moment de grande naïveté. Dans un monde peuplé d'individus émancipés, libres, peut-être même curieux, et va savoir, peut-être même heureux et épanouis. Vilain mot, je sais, vilain mot, mais quand même, je me dis, rêvons.
Ah, tu fais du fab là, fais gaffe, tu es optimiste, c'est terrible.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, je vais me soigner en sortant d'ici. Rêvons donc, car Darmanin ne peut pas encore censurer nos rêves et nos idéaux, alors ne nous interdisons pas cela, parce que, vraiment, je pense que... Enfin, moi, je reste intimement convaincu que les sexualités, c'est tellement intime que tant qu'on on n'arrive pas à exposer ce sujet-là de manière totalement décomplexée, sans être dans du porno, je veux dire, juste en faire un sujet, je pense que tant qu'on a des individualités, des intimités individuelles bridées, censurées, qui se taisent, qu'on ne peut pas dire parce qu'on a peur, parce que... en fait, je pense que toute notion de révolution profonde, vraiment... Alors, je sais, il y en a certains qui vont dire « mais t'es cinglé ». Mais je pense vraiment que c'est naïf, en fait, de croire qu'on puisse changer un monde, s'émanciper d'un monde... qu'en soi-même, en fait, on n'arrive même pas à être émancipé au plus profond de nous, en fait. Parce que vraiment, je pense que tant que le plus profond de nous est foutu en cage, enfermé à double tour, je pense que le reste, quand on n'arrive pas à s'imaginer libre, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse arriver à aller vers une société libre. Alors peut-être que je suis un grand naïf et que c'est déjà fait dans l'histoire de l'humanité, le sujet de la sexualité, moi je pense qu'il est vraiment très intimement lié.
C'est avec ça qu'on contrôle l'humanité de façon la plus perverse possible, pardon pour l'expression, mais je veux dire, on le voit, les religions depuis des siècles s'intéressent à la sexualité pour la brider, parce qu'ils savent qu'une sexualité bridée, c'est des populations qui ne sont pas heureuses, et une population qui n'est pas heureuse, c'est des gens qui croient qu'après ce sera mieux. Oui. Donc il y a un lien évident en fait entre le fait de brider les sexualités, brider les plaisirs et
sujets quoi.
Et encore une fois, on le rappelle à la causerie, consentement, tout ça, enfin il n'y a pas de souci. Parce que à chaque fois la réponse c'est oui, mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est qu'à un moment donné, il faut un monde où le consentement soit permanent, existe et où tout le monde soit libre. C'est pas la même chose. En fait, faut pas libérer qu'une partie des gens.
Non, mais c'est ça, il faut pas croire qu'on va tomber dans ce que dénoncent les fachos, c'est-à-dire que tu reparles d'ABCD, de l'égalité ou de tout ça poil, c'est on va donner des cours de sexualité, on va mettre des gens nus dans les classes et tout. Mais arrêtez vos délires en fait.
Non, mais ils sont timbrés. Et puis, il y a un moment, il faut quand même le dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une grande panique morale, notamment avec tous ces gens qui voient du woke partout, mais y compris à gauche, attention, je vais le dire. Pardon, de l'extrême droite à la droite, en passant par une partie de la gauche, il y a une panique morale hallucinante où dès qu'un sujet est abordé, ça devient un truc il faut pas en parler, c'est inadmissible. Enfin, il y a un délire absolu, mais qui moi m'inquiète. Mais ça va des personnes transgenres, en passant par la sexualité, en passant par finalement les sexualités non hétérosexuelles. Enfin, il y a une espèce de truc là qui est constant, qui est malsain. Et moi, je suis quand même pas vraiment étonné. Et pardon, je vais faire un parallèle qui va peut-être choquer, mais de voir arriver Aurore Berger, homophobe de première, anti-mariage pour tous, qui tient des propos dégueulasses sur les homosexuels depuis des années et qui continue à le faire. Faut arrêter de croire qu'elle a changé, qu'elle est devenue toute gentille parce que maintenant elle est plus aux Républicains et qu'elle est passée chez Macron et qu'elle porte une autre paire de lunettes. Non, c'est une homophobe, clairement. C'est une femme haineuse qui arrive au gouvernement et pouf, comme par hasard, on a Darmanin qui donne des gages à la droite et à l'extrême droite et au Réac en interdisant un bouquin. Faut arrêter de nous faire croire qu'on n'est pas en train de faire un petit bon virage à droite et en retour sur l'ordre moral, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est très inquiétant parce que malheureusement, et je le dis, ça se passe en catimini, c'est fait l'été volontairement, parce que là aussi, on voit bien que l'été, c'est plus compliqué hein, de mobiliser tout ça.
Bah oui, c'est l'été qu'on peut faire ce genre de choses-là, remettre les gens qui sont au travail.
Sauf qu'à mon avis, et c'est ce qui m'inquiète, ce n'est qu'un premier pas. C'est-à-dire que derrière, il y a la suite qui arrive. Et au nom de la protection de tout et n'importe quoi, on va interdire, limiter, et voilà, plutôt que de discuter, faire de l'éducation, ouvrir les esprits. Et voilà. Et ça, en fait, c'est un vrai retour de bâton. Et je le dis vraiment parce que ça m'a vraiment fait penser à ça. J'oublie pas ce que tu disais il y a quelques temps sur Mélanie en Italie. Mm-hmm. Quand les fascistes arrivent, en fait, le boulot est déjà fait. Parce que Mélanie, aujourd'hui, elle n'a pas besoin de faire de nouvelles lois. Voilà. Elle est arrivée avec, en fait, un État qui était calibré, prêt pour que l'extrême droite finalement applique son programme. Et on est en train d'avoir un État aujourd'hui avec la Macronie, comme on dit, avec Macron et ses ministres, qui en fait est en train de construire la possibilité pour l'extrême droite demain d'appliquer son programme sans même avoir à changer quoi que ce soit. Oui. Et là, c'est un problème vraiment.
C'est ça. C'est cool, hein. Voilà, bon été avec la causerie.
Ouais, bah écoutez, hein, sinon vous mettez une autre radio, mais voilà, vous nous écoutez à la rentrée.
C'est ça, quand on sera pas là.
Pardon.
Et ben on passe à la ZIC, ça
oui,
te va?
Oui, ça me va bien. Là.
Allez.
De 1200 à 1860, plusieurs inquisitions ensanglantent l'Europe. L'Église travaille main dans la main avec l'État afin de débusquer les hérétiques, de punir les pécheurs et de resserrer son emprise sur les masses. Découvrons maintenant les rouages de ces engins de mort.
Ce travail de fond, je suis fier de le faire. Je prends mes outils, je t'arconne de la sorte. On va t'enfermer dans la Vierge de fer. Tu vas embrasser la Madone de la mort. Tu feras la connaissance du chat à neuf queues. On veut tous tes aveux, alors faudra se bouger. Car la vérité sort de la bouche des rageux. On va t'embrocher sur un crochet de boucher. Dans son labouré en ce jour orageux. Pour divertir la foule, on va brûler des sorcières. Les potos m'appellent le grand inquisiteur. Qui est plus vicieux qu'un inspecteur du quai des orfèvres. On va te peler le jonc comme dans Les Visiteurs. Et sous le pont-levis comme quand Lady Di meurt. Autoflagellation et supplice de la route. Traquer des hérétiques, c'est mon péché mignon. C'est du sang bien épais que tu pisses de partout. Avec des sombres sons, on va péter le million. Écarte-les tous ces infidèles, ceux qui forniquent avec Belzébuth. Bien trop souvent, je suis imbibé. Alors les Templiers, je les persécute. Tu seras sur le bûcher ou pendu par les tripes. Surtout quand le bourreau ouvrira la trappe. Et tu pars en fumée comme la plupart de ces types. Moi j'ai tellement d'outils que j'en oublie la matraque. Des boulets et des chaînes pour ta punition. Tous les jours, je me prends pour un justicier. Avec de l'eau bénite, on va te purifier. Si tu parles pas, on va te crucifier. Accusez, levez-vous. Confessez vos péchés, attendez la sentence du tribunal. Adorateurs de Satan sous l'emprise du mal. Finiront les doigts dans la brise murale. Les voix du Seigneur, elles sont impénétrables. Dans ma salle de torture, c'est médiéval. À la moyenâgeuse, on a percé des crânes. Personne ne voudrait faire ce métier sale. Tic, tac, châtiment. Les boyaux à l'air pour les charognards. Je fais flipper les impies et les pratiquants. Tu finis bâillonné dans mon château noir. Et ça sera douloureux comme le pilori. T'as la tête entre l'enclume et l'assommoir. Si ta peau vire au gris, t'as une vie horrible. Et tu pisseras du sang comme un arrosoir. Va vendre ton âme au diable, sinon ce soir tu pars aux flammes. Mon Dieu, pourquoi j'ai un si petit cœur? T'auras pas d'avocat, c'est comme dans l'enfer d'Ashoka. Je chante le blues de l'inquisiteur. Va vendre ton âme au diable, sinon ce soir tu pars aux flammes. Mon Dieu, pourquoi j'ai un si petit cœur? T'auras pas d'avocat, c'est comme dans l'enfer d'Ashoka. Je chante le blues.
Ils n'ont pas été créés pour tuer, mais pour torturer et estropier avec une glaciale précision.
Et ouais, t'es toujours à l'écoute de Radio Canu, et toujours à l'écoute de La Causerie, et toujours un fan de Taltarba aux manettes. Bah ouais.
Tu as un peu une voix de poissonnier dans ce
ouais,
coup,
t'as vu, je sais pas. Je crois que pendant le truc, on n'a pas parlé de Morano ou des fachos. Donc, j'ai cette voix qui vient. Enfin bref, tu veux mon poisson? Bref, on vient de s'écouter.
J'ai rien contre les poissonniers, je suis dit.
On vient de s'écouter. Le titre, le blues de l'Inquisiteur, ouais. C'est un titre qui est évidemment sur le cabinet des curiosités 2 du Mister Altarba et en compagnie de Swift Quad qui est au chant.
Voilà. Et ça allait tellement bien avec ton sujet.
Bah oui, en
c'est
fait.
Que... Ah non, mais c'est vrai. Hein,
bah ouais, le blues de l'inquisiteur, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'était sympa.
Avant de se quitter, on avait envie de vous parler d'un film qui vient de sortir
oui.
et qui s'appelle Yannick.
Ouais.
Voilà. Et eh ben vas-y.
Ah non, mais alors, il vous dit ça, mais on a absolument rien préparé. J'ai pas le nom des acteurs.
Non, mais alors,
des
Quentin Dupieux, il y a Pio Marmaille, il y a Blanche Gardin, et j'ai perdu le nom de l'acteur
c'est
principal.
Ça,
je vous le retrouve tout de suite.
C'est lui que je voulais citer.
Vas-y, parle pendant
donc,
que je le recherche.
Film très court, 1h07, et en fait, on est plongé dans une salle de théâtre où il y a plein de gens, hein, et il y a donc une pièce de théâtre, et il y a aussi Yannick dans la. Dans la salle.
Voilà. Yannick qui est Raphaël Quenard.
Ouais,
qui est génial. Tout simplement génial.
Et en fait, c'est un film qui va interroger finalement ce qu'est l'art, ce que sont les acteurs et les actrices, quelle considération pour le public.
Le pouvoir aussi.
Le pouvoir
quand
aussi.
Quand on l'a pas et quand on l'a.
C'est ça.
Et est-ce
c'est
qu'on
vraiment...
se transformerait pas quand on a un peu de pouvoir.
C'est pas faux. On peut aller très loin quand on a du pouvoir.
Voilà.
Donc vraiment, enfin, allez-y. Alors habituellement, Dupieux, c'est quand même très barré, ça a ni queue ni tête. Là, ça a quand même un peu de queue et un peu de tête. Je sais pas si ça
se dit pas vraiment, mais enfin,
on non, s'en non, fout. Ouais.
Non, mais en tout cas,
de toute façon, personne nous écoute. Je veux dire, on peut y aller dans des expressions qui n'existent pas.
Non, mais moi j'ai un vrai amour pour ce film. Je vais le dire, mais vraiment, il m'a beaucoup touché, il m'a beaucoup fait rire aussi,
oui.
Parce que c'est aussi très drôle.
Ah, mais oui, ça reste du
jeu, quoi. C'est une vraie interrogation de notre époque. Oui. Alors Dupieux est parfois un peu misanthrope. Il le dit lui-même. Il a un peu du mal avec le monde dans lequel on vit et les humains en général. Il les trouve parfois.
Je peux pas lui en vouloir.
Mais il est quand même aussi, en même temps, tout en étant c'est un misanthrope positif, comme on dit, c'est-à-dire qu'en même temps, il a encore un peu d'espoir. Je sais pas comment expliquer.
Ah, bah,
ça.
T'as vu la fin de ma chronique? De l'espoir dedans. Hein,
Et en fait, et son film, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est un peu le rapport à notre société actuelle, à qui tient le pouvoir, qu'est-ce qu'il en fait quand il en a, aux excès. C'est aussi l'art, c'est aussi est-ce que finalement, c'est pas illégitime plein de choses qui sont faites, qui servent à rien,
ouais,
et qu'on le sait, en fait.
Voilà. Et aussi l'accès à l'art, en fait.
Oui, l'accès à l'art, bien sûr.
L'accès à l'art, quoi. Quand on n'habite pas au centre-ville des grandes villes, comment on accède à l'art? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de pouvoir accéder à l'art? Donc vraiment, courez-y.
C'est très bien.
Ça reste marrant, c'est aussi touchant, c'est aussi, enfin vraiment, allez-y, c'est Yannick de Quentin Dupieux.
Ouais.
Je crois que ça marche plutôt pas mal.
C'est dans plein de ciné. Et en plus, ça vous prendra pas longtemps, 1h07.
1h07, ça passe comme une lettre à la poste.
Voilà.
Oh, expression d'avant.
Expression d'avant Internet, tu n'es pas tout jeune. C'est pas tout jeune.
Et évidemment, on vous rappelle encore que vous pouvez aller voir, je crois que ça continue d'être diffusé, Les Algues Vertes.
Ouais, tout à fait, oui, dont t'avais parlé.
Ouais, dont j'avais parlé la semaine dernière.
Parlé, oui.
Dont on avait parlé, effectivement.
Ouais.
Mais allez-y. Donc, Quentin Dupieux avec Yannick et Les Algues Vertes de Pierre Jolivet, si je me trompe pas.
C'est ça.
Et ben voilà, on se quitte.
Oui.
On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la dernière de l'émission avant des
j'ai cru que t'annonçais la dernière.
Ah
bon, on se retrouve. Après, on s'en revient plus.
Ce serait très autoritaire de ma part de décider.
Voilà, c'est la dernière. Oui, après, ouais, on va prendre. On vous dira la semaine prochaine quand est-ce qu'on reviendra. Mais on prendra quelques week-ends de vacances. Ouais.
Tout à fait. Donc, on va se quitter en musique, évidemment, comme toujours, à la causerie. Et là. On va vraiment se poser, hein. Je vous le conseille vraiment. Et c'est en compagnie d'Adi Oasis. Le problème, c'est que je lis ce qu'a écrit Fab.
Adi Oasis.
C'est Adi Oasis. En plus, je le sais, c'est moi qui ai choisi.
Et Leven Kali.
Leven Kali, avec le titre Naked. C'est très, très bon. Sur ce, on vous dit.
Mais dis-le que c'est très sensuel et qu'il faut se poser, que c'est fait pour bien finir l'émission.
C'était pour aussi répondre à l'inquisiteur, c'était pour ceux qui veulent censurer. Et là, c'est pour celles qui veulent se faire plaisir, jouir, s'amuser, se caresser, etc. etc. Jouissons de la vie. Bref, je vais m'arrêter là dans mon monologue. On vous souhaite donc une bonne semaine. On vous dit à dimanche prochain.
Oui.
Et puis, bon courage à celles et ceux qui bossent et bonnes vacances à celles et ceux qui le sont.
Exactement.
À tout bientôt.
Des bisous.
Ciao. Your butter and what you drink.